Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Par le signe de la croix, Seigneur notre Dieu, délivrez-nous de nos ennemis. Alléluia. Mes très chers frères, en ce jour, l'Église exulte de joie en commémorant l'invention, c'est-à-dire la découverte de la croix, de la vraie croix de notre Seigneur par l'impératrice Sainte Hélène, la mère de Constantin le Grand, l'empereur. La croix, nous disent les auteurs, la croix est la clé du ciel. Elle est l'autel du sacrifice suprême. Elle est le cœur, elle est au cœur des mystères, du mystère de la rédemption. Voilà pourquoi l'Église l'entoure d'une vénération qui est très grande. La croix de notre Seigneur est quelque chose, et c'est le seul objet dans tout l'univers et de tous les temps que les chrétiens adorent. Ils adorent la croix et souvent les hérétiques leur ont fait remarquer que c'était un mot impropre, car on n'adore que Dieu. On adore notre Seigneur Jésus-Christ, on adore le Saint-Sacrement parce qu'il est Dieu. Maintenant, on n'adore pas la Très Sainte Vierge Marie, parce que même si elle est la mère de Dieu, on la vénère d'un culte qui est bien au-dessus du culte des saints, mais on ne l'adore pas. Et pourtant, la croix, la Sainte Croix de notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'adorons. Évidemment, nous n'adorons pas le bois de la croix, nous n'adorons pas la chose croix indépendamment du Christ. Nous adorons cette croix parce que, d'une façon qui est, sous un certain rapport, plus grande que la Très Sainte Vierge Marie, le Christ a été uni avec elle. C'est-à-dire, le Christ s'est incarné dans le sein de la Très Sainte Vierge Marie et il est né d'elle, de telle sorte qu'elle est la vraie mère de Dieu. Mais la croix, notre Seigneur y a été cloué par amour pour nous. De telle sorte que la croix est quelque chose de mystérieux, quelque chose d'incomparable dans l'univers. Et c'est pourquoi l'antienne du Magnificat disait, des premières vêpes disait, ô croix plus brillante que tous les astres, célèbre dans le monde entier, singulièrement digne de l'amour des hommes, plus sainte que tout, seule tu as mérité de porter la rançon du monde, ô doux bois, ô clou béni, qui portait le doux fardeau, sauvez ce peuple assemblé aujourd'hui pour chanter vos louanges. Alléluia. Il y a quelque chose de divin dans la croix, non pas à l'instrument de supplice, encore que nous allons voir quelque chose tout à l'heure, à propos de celle de la croix, du bois de la croix, mais parce que notre Seigneur s'est identifié avec elle. Tout à l'heure, après la messe, nous aurons la vénération de la relique de la vraie croix que nous avons, avec vénération aussi du relique de troisième classe d'un clou de notre Seigneur. Nous nous prosternerons devant ces choses et nous les vénérerons. Nous adorerons la croix, enfin on l'adore surtout le Vendredi Saint. Nous vénérerons cette relique de la vraie croix. Pourquoi? Parce que notre salut y est directement lié. Il y a, on pourrait dire, beaucoup de choses, mes très chers frères, en l'honneur de la croix, et nous sommes vraiment le dernier, le plus petit de tous ceux qui pourraient dire quelque chose. Et pourtant, l'Église veut que nous vous apportions quelque chose, des enseignements sur ce mystère de la Sainte Croix. Alors, nous avons plusieurs choses à voir, et j'espère qu'elles vous seront à la fois intéressantes et édifiantes, parce que nous allons faire un peu d'histoire. En premier lieu, nous verrons l'histoire de l'invention de la Sainte Croix. Et nous verrons aussi les merveilles de Dieu dans la préservation de l'instrument du salut et même dans sa préparation. Il y a beaucoup de choses qui sont très belles et que l'Église nous a conservées dans les livres paraliturgiques. Ensuite, évidemment, il nous faudra voir quelque chose, une application concrète de tout cela. Donc nous verrons en deuxième point la doctrine de l'adoration de la croix, et l'application qui est l'application du salut mérité par le Christ. Et nous verrons aussi vous pouvez prendre des notes si vous voulez, nous verrons quelques points fondamentaux que nous donnent les auteurs pour méditer sur le mystère de la croix. Et enfin, nous terminerons par quelques considérations sur le signe de la croix pratiqué par les vrais chrétiens et comment ils peuvent et comment nous pouvons le rendre efficace. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Écoutez ce que dit l'oraison d'aujourd'hui. Ô Dieu, qui avez renouvelé, lors de la glorieuse découverte de la croix du salut, les miraculeux effets de votre passion, donnez-nous d'obtenir, par le prix de cet arbre de vie, les mérites de la vie éternelle. Il y a une description dans cette prière, dans cette oraison, il y a une description des faits historiques qui motive cette fête, la fête de l'invention de la Sainte Croix. Invention au sens de découverte, c'est l'ancien mot pour découverte. Ô Dieu qui avez renouvelé lors de la glorieuse découverte de la croix du salut les miraculeux effets de votre passion. Aux alentours de l'an 326, Constantin, l'empereur, qui avait fait cesser les persécutions contre l'Église, comme vous le savez, puisque le Christ lui avait donné la victoire, il lui avait montré le signe, son signe dans le ciel, et lui avait donné par ce signe la victoire sur Maxence, son rival, de telle sorte que, étant encore païen, mais ayant été illuminé par ce signe sensible, par ce miracle sensible du Christ pour lui, il avait favorisé l'Église. Il avait vu, il avait éprouvé la force, la puissance et les promesses du Dieu des chrétiens. Et donc, après cet événement utile pour lui, eh bien, il avait entrepris de doter les églises de magnifiques bâtiments pour le culte, un peu partout dans l'univers, spécialement à Rome, évidemment, à Constantinople, qu'il était en train de faire bâtir, et puis surtout dans le centre du monde, c'est-à-dire à Jérusalem, là où notre Seigneur était mort et ressuscité. Il avait donc envoyé sa mère, qui était une chrétienne très pieuse, Sainte Hélène, l'impératrice, qui était une de ces femmes fortes si rares, et qui a été si déterminante par la suite des choses, en tout cas pour le culte de la vraie croix. Il envoya sa mère à Jérusalem et en Terre Sainte plus généralement, afin qu'elle puisse, elle qui était extrêmement désireuse de visiter les lieux saints et aussi de faire quelque chose pour leur réhabilitation, car à l'époque les lieux saints étaient profanés, comme nous allons le voir dans un instant. Donc il l'a envoyée en Terre Sainte afin qu'elle fasse diligentes des enquêtes et qu'elle puisse non seulement retrouver les lieux saints, mais aussi faire bâtir, sur l'ordre de l'empereur, des monuments, des églises, où les mystères puissent être honorés, vénérés, célébrés, au lieu même où ils se sont historiquement passés. C'est ainsi qu'elle a redécouvert l'étable de Bethléem, elle a découvert un certain nombre d'autres lieux saints, et à Jérusalem même, eh bien, après des enquêtes, et après un certain nombre d'interrogatoires de la population locale, et même des juifs, et surtout des juifs, eh bien, elle a redécouvert le lieu du calvaire, qui est actuellement l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, qui était à l'époque surmontée d'un temple à la fausse déesse Vénus. Les païens avaient, comme vous le savez peut-être, mes très chers frères, avaient, sachant que les chrétiens vénéraient, ou en tout cas que le sauveur des chrétiens était mort en cet endroit, les païens avaient très rapidement bâti des temples, des temples aux faux dieux sur ces endroits. C'était pour, en quelque sorte, absorber le dieu des chrétiens et le neutraliser, de telle sorte que les chrétiens ne puissent pas s'approcher pendant 300 ans. Les chrétiens n'ont pas pu s'approcher des lieux saints. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils étaient profanés. Alors, l'impératrice Sainte Hélène a fait détruire, bien sûr, le temple à ce faux dieu. Elle a fait creuser dans ses fondations et elle a retrouvé le Saint-Sépulcre. À côté, un peu plus loin, elle a trouvé le lieu du calvaire, puisque, comme vous le savez, le Saint-Sépulcre, comme le dit l'Évangile, n'est pas très éloigné du lieu du lieu de la crucifixion de notre Seigneur. C'est à quelques dizaines de mètres ou quelques mètres de là. Elle a retrouvé le calvaire et, en creusant, elle a retrouvé trois croix. Ces croix, nous savons qu'elles avaient été enterrées dans ce lieu, de telle sorte que ça serait une erreur de penser que la croix de notre Seigneur était simplement un outil de supplice qui était, quand le supplice était terminé, remisé dans les endroits où les bourreaux tenaient leur matériel. C'était quelque chose qui avait été utilisé pour l'occasion et quelque chose qui avait été abandonné après l'occasion. Elle a retrouvé trois croix. C'est-à-dire la croix de notre Seigneur, la croix de Saint Dismas, et puis la croix de Gesmas, le mauvais larron. Comment discerner quelle était la vraie croix? Alors le patriarche de Jérusalem de l'époque, Saint Macaire, en priant, a trouvé cette solution. Il a fait prendre les trois croix, et il les a fait appliquer successivement à une femme qui était extrêmement malade, de telle sorte qu'elle était en danger de mort. La première croix ne lui a rien fait, la deuxième croix non plus, c'était les deux croix des larrons, et la troisième croix l'a entièrement guérie et instantanément guérie de son mal. Et ensuite, l'histoire nous rappelle, nous apprend que on a pris un mort qui venait de mourir et on l'a étendu sur la croix et il est ressuscité. C'est pour cela que dans l'oraison, il est dit au Dieu qui avait renouvelé lors de la glorieuse découverte de la croix du salut les miraculeux effets de votre passion, car vous savez que lorsque notre Seigneur est mort, des saints qui étaient dans les tombeaux aux alentours de Jérusalem sont ressuscités, sont sortis des tombeaux et se sont joints à la foule des disciples lorsque, après la résurrection de notre Seigneur. Donc, il y a quelque chose de tout à fait magnifique dans les dons que Dieu a fait à Sainte Hélène. Il lui a permis non seulement que son fils devienne chrétien, mais aussi que de retrouver la Sainte Croix et de restaurer pour le culte, de donner au culte des chrétiens, à la vénération des chrétiens, les lieux saints qui sont en Terre Sainte. Il y a quelque chose de tout à fait magnifique et on trouve cette histoire avec d'autres détails dans les livres qui les racontent. Il faut prendre des livres anciens parce que sinon évidemment les livres de ces derniers temps ont toujours tendance à tout remettre en question, mais les livres anciens sont formels, c'est ainsi que les choses se sont passées. Le bois de la croix, disions-nous, est non seulement le bois qui a été au contact du corps et du sang de notre Seigneur, mais c'est aussi un bois très spécial. Il y a dans le christianisme une tradition qui est une tradition autorisée, qui dit que le bois de la croix n'est autre que le bois de l'arbre de vie qui était dans le paradis. Comment s'est-il retrouvé à Jérusalem pour la crucifixion de notre Seigneur ? Eh bien, très rapidement, c'est une histoire très intéressante et qui parcourt en réalité, qui est comme un fil qui parcourt toute l'histoire du salut. Lorsque la tradition nous apprend que, pour diverses raisons, Dieu a autorisé Abel à rentrer un instant dans le paradis terrestre. C'est pour cela que Abel est un saint très grand qui est comparable au Christ, puisqu'il n'a pas eu de descendance, il est mort, comme vous le savez, tué par son frère Caïn. Et ensuite, Abel a été remplacé par Seth, qui est né après le rejet de Caïn par Dieu, et, comme vous le savez. Donc, Abel a rapporté trois graines, trois semences de l'arbre de vie. Et lorsqu'Adam est mort, la tradition nous dit qu'il il a enterré son père et il a mis les trois graines dans sa bouche. Comme tout le monde le sait, puisque Saint Jérôme rapporte cette tradition, Adam a été enterré aux alentours du lieu du calvaire, peut-être même au lieu même du calvaire. C'est pour cela que sur les représentations traditionnelles du calvaire, et même sur certains crucifix, quand on les a encore, puis qu'on ne s'est pas laissé influencer par les anti-illuminati, etc., qui interprètent tout de travers, on trouve une tête de mort, on trouve un crâne et des os, ça n'a rien à voir avec les associations secrètes américaines, etc., bien entendu, quand même, c'est quelque chose, c'est la représentation de plusieurs choses. Premièrement, c'est la représentation d'Adam. Notre Seigneur a été crucifié, nous dit la tradition, au-dessus même du tombeau d'Adam. Et ce crâne avec ses os représente en même temps le vieil homme. Et nous verrons ça dans un instant. Mais il représente le vieil homme, donc le premier Adam, mais aussi Adam au sens littéral du terme. Seth a enterré son père sur le lieu du futur calvaire. De telle sorte que notre Seigneur, le vrai Adam, le deuxième Adam, le premier était tout aussi vrai, mais le deuxième Adam, a en quelque sorte défait l'œuvre du premier, au lieu même où le premier a été enterré. Donc, il se trouve que, je raccourcis cette histoire parce que ça c'est une histoire très belle mais qui est très longue, il se trouve que ces trois rameaux ont cru et sont sortis de la tombe d'Adam. Et on retrouve au moins l'un d'entre eux, en tant que la Vierge de Moïse, cette Vierge miraculeuse qui a fait sortir l'eau du rocher, cette Vierge miraculeuse qui a séparé l'eau de la mer, les flots de la mer Rouge, puis cette Vierge miraculeuse qui s'est transformée elle-même en serpent. Comme vous le savez, lorsque Moïse, au début de sa mission, a confronté les magiciens de Pharaon, eh bien, il a jeté son bâton par terre et il l'a transformé en serpent. Cette Vierge de Moïse est devenue aussi un symbole de la croix, d'une façon encore plus particulière et prophétique, lorsque, comme vous vous souvenez, les Hébreux s'étaient une énième fois révoltés contre Dieu dans le désert, et Dieu avait envoyé contre eux des serpents brûlants, c'est-à-dire des serpents, miraculeux ou non, mais enfin des serpents qui mordaient les Hébreux et qui les faisaient mourir dans d'atroces souffrances. Et pour endiguer cette plaie, Dieu a donné à Moïse cet ordre de faire une effigie des serpents brûlants et de le fixer sur sa verge, de telle sorte que tous ceux des Hébreux qui regardaient avec foi vers ce serpent crucifié sur la verge de Moïse étaient guéris. Et c'est exactement ce que dit notre Seigneur, où il s'identifie explicitement au serpent de Moïse, puisqu'il dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a donc ici, c'est un signe de l'œuvre expiatrice du Messie. C'est une chose très, très étrange que notre Seigneur soit représenté par un serpent, mais sachez bien que le diable est le singe de Dieu, de telle sorte que même le serpent dans la Genèse est lui-même quelque chose de, sous un certain rapport, parodique et emprunté. Satan ne peut pas inventer quelque chose. Donc il se trouve que pour diverses raisons que nous n'évoquons pas ici, notre Seigneur a été efficacement représenté de par la volonté de Dieu même, crucifié sur la verge de Moïse pour le salut du peuple hébreu. Or, il se trouve que la verge de Moïse, nous revenons à notre histoire de la croix, était vraiment un rameau de l'arbre de vie tel que Abel l'avait emporté ou plutôt avait apporté une semence hors du paradis et l'avait plantée. Ensuite, Moïse, cette verge de Moïse a été plantée en Israël et est devenue un arbre. Et Salomon, le roi Salomon, lorsqu'il a bâti son temple, comme vous le savez, il a fait venir du Liban des cèdres et des cyprès, de telle sorte que Salomon est connu pour avoir enrichi le temple et la maison du roi avec des bois d'une très grande d'essence, que vous savez que le bois de cèdre sent extrêmement bon, de telle sorte que Salomon était un amateur de bois, de telle sorte que lorsqu'il a vu l'arbre qui avait cru de la verge de Moïse, et encore une fois, c'est une chose assez commune. Je vous renvoie au bâton de Sainte Rita qui a fait ce fameux rosier, et vous le savez, on peut très bien, il se peut même dans la nature qu'on peut, planter une branche, et cette branche devient un arbre. Donc ce n'est pas quelque chose qui est typiquement miraculeux. Ce qui est miraculeux, c'est la préservation de cet arbre. Donc cet arbre est devenu, cette verge de Moïse est devenue un arbre, et le roi Salomon, de par sa mission divine, a fait couper cet arbre, l'a fait équarrir pour en faire une poutre, car il voulait la mettre dans le temple. Or, l'histoire nous dit que cette poutre, qui était une poutre parfaite, qui était une poutre merveilleuse, évidemment, parce que Salomon n'a employé que des matériaux merveilleux pour bâtir le temple de Dieu à Jérusalem, cette poutre s'est avérée inutilisable. De telle sorte que l'on retrouve cette notion dans ce que dit le prophète à propos de la pierre d'angle qui a été rejetée par les bâtisseurs jusqu'au moment où elle est devenue utile. Eh bien, la poutre taillée dans l'arbre de vie, eh bien, était inutilisable. Et elle a été utilisée comme pont. La reine de Saba s'y est intéressée. Elle a révélé à Salomon le caractère miraculeux et inouï de cette poutre, nous dit cette histoire, et Salomon l'a utilisée comme pont, de telle sorte que pendant un certain temps, cette poutre servait aux voyageurs qui venaient à Jérusalem et qui traversaient les vallées qui entourent Jérusalem. Ensuite, les Juifs, pour diverses raisons, j'abrège bien sûr, ont enterré cette poutre. De telle sorte que elle n'a été déterrée que quelques temps avant la crucifixion de notre Seigneur, et ne sachant quoi en faire, à quoi utiliser ce bois, qui était un bon bois, un beau bois, eh bien les Romains ou les Juifs, peu importe, l'ont taillé pour en faire une croix. Et c'est cette croix-là que notre Seigneur a été chargé. Dans l'Évangile, il est dit « et portons sa croix », etc. Figure bien sûr figurée par Isaac portant le bois du sacrifice. Donc, notre Seigneur a porté cette croix, qui est la croix dont nous parlons, la croix que nous vénérons, a porté cette croix qui avait déjà connu dans toute l'histoire cette succession de préservation et de transformation, de telle sorte que le bois de la croix n'est pas n'importe quelle croix utilisée déjà pour les suppliciés des environs de Jérusalem, mais c'était un bois qui certes a été utilisé par les Romains pour un supplice commun à l'époque, mais c'est un bois sur lequel personne n'avait jamais été crucifié, comme l'anon et l'ânesse étaient des animaux sur lesquels personne n'était jamais monté. Le tombeau de notre Seigneur était un tombeau dans lequel personne n'avait jamais été enterré, etc., etc. Il y a une analogie qui fait que cette histoire est tout à fait vraisemblable et qu'elle constitue le fond de l'historiographie dont les chrétiens se nourrissent. Notre Seigneur ayant été crucifié, il a été ensuite enseveli au tombeau, et qu'est devenue cette croix? Eh bien, il se trouve que, parce que cette croix était l'instrument du supplice de celui qui est en horreur par excellence aux Juifs, les Juifs ont enterré cette croix, ils l'ont réenterrée. De telle sorte qu'ils l'ont enterrée sur place, de telle sorte que les Romains, ayant intérêt à ce que le lieu de la crucifixion du Christ ne devienne pas un lieu de rassemblement pour les chrétiens, ont, comme vous le savez, profané ce lieu, enfin, pour nous et pour eux, ils l'ont sacralisé à leur manière, c'est-à-dire ils ont construit un temple de Vénus sur ce lieu. De telle sorte que le bois de la croix s'est trouvé miraculeusement, providentiellement, dérobé aux injures des hommes et du temps, moyennant une profanation pérenne pendant 300 ans. C'est pour cela que dans l'Église primitive, et même chez les chrétiens, les chrétiens d'Église primitive et chez les apôtres, etc., on ne parle pas de cette croix. Pourquoi? D'une part, parce qu'on n'en avait pas besoin, parce que la charité et la foi étaient à son maximum, puisqu'ils vivaient dans la lumière du Christ, alors que nous sommes devenus très faibles. Et il se trouve que la croix est apparue au moment où la paix a été donnée à l'Église par Dieu, par le moyen de l'empereur bénéfique Constantin. Les auteurs nous disent qu'il y a un parallèle à faire entre le fait que l'empereur Auguste a connu une paix universelle dans son empire au moment de la naissance du Christ, et l'empereur Constantin, qui est son successeur, a connu aussi une grande... Quand l'Église sous Constantin a connu cette paix universelle, la cessation totale des persécutions, il y en a eu encore par la suite, mais ce n'était plus tout à fait la même chose. Ce n'était plus les persécutions permanentes et des empereurs païens. Eh bien, c'est en raison de cette croix, à ce moment-là, la croix de notre Seigneur est apparue. Vous voyez, c'est une histoire tout à fait merveilleuse. Il y a encore une histoire de cette croix après sa découverte par Sainte Hélène. Donc, je vous ai raconté comment cette croix a été reconnue comme la vraie, puisqu'elle opérait des miracles, un signe. Cette croix a été donc divisée en deux par Sainte Hélène. Elle en a donné la moitié à son fils, à Constantinople, et elle en a laissé, évidemment, la moitié au patriarche de Jérusalem, comme cela ce n'est que justice. Ensuite, lors des guerres entre les rois de Perse et les empereurs romains, l'empereur Chrosoès est venu à Jérusalem, a conquis cette ville et a emporté les dépouilles de cette ville. Et parmi les dépouilles, eh bien, le trésor de l'église patriarcale de Jérusalem, c'est-à-dire il a emporté la relique de la vraie croix. Il a essayé de l'utiliser chez lui, puisque vous savez que les païens ont une tendance syncrétiste, mais il se trouve que par la suite, l'empereur Héraclius, si je ne m'abuse, 14 ans après, est allé lui faire la guerre et a récupéré cette croix, de telle sorte qu'il l'a ramenée, il ne l'a pas laissée à Jérusalem, il l'a ramenée, me semble-t-il, à Constantinople, et à partir de là, les empereurs de Constantinople ont pris l'habitude d'en donner des morceaux, des fragments, à leurs correspondants, au roi, aux autres souverains et aux gens de piété dans l'univers, de telle sorte que, là encore, il s'est fait un miracle, et je ne sais plus quel père de l'Église nous rapporte qu'au début de cette distribution, le morceau de la croix, qui était un grand morceau, ne diminuait pas. Et ensuite, il a diminué, bien entendu. Il se trouve que la France a été le lieu où on a recueilli le plus de morceaux de la croix, de telle sorte que si on additionnait tous les morceaux de la croix qui se trouvent dans les diverses églises de France, eh bien les grands et les petits, aujourd'hui nous n'en avons plus la plupart du temps que des tout petits morceaux, des écharpes, mais enfin c'est des écharpes de la vraie croix, il se trouve qu'il y a une bonne partie de la croix qui est dans le territoire de l'ancien royaume de France. Voilà quelque chose de merveilleux. Vous voyez, mes très chers frères, nous voyons comment la croix, dont ce petit morceau, ce minuscule morceau qui se retrouve dans ce reliquaire que nous avons actuellement sur l'autel et que nous vénérerons tout à l'heure, eh bien, ce petit morceau de bois, eh bien, vient de la vraie croix, qui vient de l'arbre de vie, qui vient du paradis terrestre. Vous voyez cette histoire, qui est une histoire qui est donnée à la piété des chrétiens pour leur montrer l'importance de la croix, c'est une histoire qui est véridique, c'est une histoire qui nous montre que notre Seigneur a tout prévu dès la fondation du monde pour le salut du genre humain qu'il savait devoir tomber et qu'il savait devoir aussi être restauré par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Alors, vous allez dire, c'est une belle histoire, terminons-en là. Eh bien, mes très chers frères, il faut continuer. À quoi nous servirait-il d'avoir une telle admiration pour la croix, si cette admiration ne se transformait pas en piété, et si notre piété ne se transformait pas, ou n'était, ne consistait pas en le fait de profiter des grâces que Dieu nous donne. Dans l'intro 8, il est dit, c'est tiré du verset de Saint Paul aux Galates, « Pour nous, il nous faut nous glorifier dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui qu'est notre salut, notre vie et notre résurrection. C'est par lui que nous avons été sauvés et délivrés. » L'adoration de la croix, nous disent tous les bons auteurs, est un signe de contradiction. Comment adorer ce que nous refusons d'embrasser? Je vais dire, n'est-ce pas suffisant de vénérer la croix, d'être fier de la croix, d'adorer la croix, et puis de la brandir au nez de tous ceux qui détestent la croix et auxquels elle est un objet d'horreur et de dégoût et de répulsion? Mais très chers frères, si nous nous contentons de faire cela, ou je dirais même si nous faisons cela, nous mésusons de la croix. La croix ne nous a pas été donnée pour que nous en fassions quelque chose qui flatte notre orgueil sous prétexte de piété. La croix nous a été donnée afin que nous y mettions notre confiance, puisque c'est en notre Seigneur Jésus-Christ qu'est notre salut, notre vie et notre résurrection. Comment adorer ce que nous refusons d'embrasser? Évidemment, on dira, mais seul notre Seigneur a été obligé d'embrasser la croix, pour nous, nous l'utilisons d'une autre manière. C'est faux, mes très chers frères. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que par le baptême, nous avons été rendus membres du corps mystique du Christ. Et comme le corps mystique du Christ est le vrai corps de notre Seigneur Jésus-Christ, et que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié sur le bois de la croix, nous devons être crucifiés avec notre Seigneur Jésus-Christ sur le bois de la croix, de telle sorte que nous prouvions, d'une certaine manière, que nous sommes vraiment membres de son corps, et que nous ne sommes pas de ces membres morts, de cet ivraie qui vit avec et aux côtés du bon grain, de ces rameaux et sarments de la vigne qui sont secs, qui ne portent pas de fruits, et qui doivent, à un moment ou à un autre, être retranchés par le divin jardinier. La vénération extérieure, nous dit un auteur, est insuffisante s'il n'y a pas de conformation intérieure. L'orgueil pour la croix est stérile. Alors vous allez dire, oui, mais dans notre devoir de reconquête, nous brandissons la croix de Saint-Jacques qui a été donnée miraculeusement lors de la Reconquista des Espagnols. C'est vrai que Dieu et Saint-Jacques soient loués et glorifiés et remerciés pour cette apparition de cette croix. Mais, encore une fois, si nous ne pratiquons pas la croix dans notre cœur, si nous ne pratiquons pas la conformation à la croix, à quoi nous servira-t-il de la brandir? Déjà, nous la brandissons, mais en vain. Pourquoi? Parce qu'il ne nous a pas été donné, formellement parlant, de mener la reconquête. Tout le monde crie à la reconquête, mais comme je le disais la dernière fois, c'est plus des cris d'impuissants qu'autre chose. Comment reconquérir le monde pour le Christ si nous méprisons le premier usage de la croix, qui est de s'y conformer? L'orgueil vis-à-vis pour la croix est d'une stérilité totale. La croix est la trace de notre Seigneur Jésus-Christ, dans laquelle nous devons mettre nos pas pour le suivre. Saint Paul nous dit que notre Seigneur nous est mort et a souffert, enfin l'apôtre dit notre Seigneur est mort et a souffert, afin que de nous laisser des traces dans lesquelles nous marchions. Vestigia. Dans l'Évangile, notre Seigneur dit à Saint Nicodème, « en vérité, je te le dis, nul ne peut naître de nouveau, s'il ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. » Et il le répète plusieurs fois. Comment naître de nouveau? Par la puissance du baptême, bien entendu. Mais la puissance du baptême ne s'actualise, tout le monde, si j'ose dire, tout le monde est baptisé, ou presque. La puissance du baptême ne s'actualise que par la conformation à la croix. Cette puissance, c'est la puissance de la nouvelle naissance, qui est une mort à la nature. Rien ne sert de dire « je suis né de nouveau par le baptême » si je suis encore ce que j'étais autrefois, si j'ai encore les anciens réflexes que j'avais autrefois. On dira « mais ces anciens réflexes sont des réflexes qui nous viennent des vertus de la nature, et par exemple, j'étais très combatif, et aujourd'hui, maintenant que je suis baptisé, je suis très combatif pour la gloire de Dieu. » Vous savez, mes très chers frères, le piège qui se cache dans ce genre de considération. Déjà, il faut être missionné pour pouvoir mettre sa combativité, si j'ose dire, au service de Dieu et non pas au service de n'importe quelle cause, voire de son orgueil. Ensuite, de façon plus profonde encore, il faut comprendre que tout ce que nous étions avant d'être baptisés, c'est-à-dire par la nature, nous ne le sommes plus aujourd'hui, de telle sorte que quand bien même des vertus naturelles héritées de nos parents, de notre éducation, etc., se retrouveraient dans notre être de ce côté-ci du baptême, si j'ose dire, nous ne pourrions plus les concevoir comme nous les, concevions autrefois. Que n'as-tu que tu n'aies reçu ? Mais si nous avons, dit saint Paul à saint Timothée, mais si nous avons reçu quelque chose de Dieu directement ou de Dieu par la nature, il nous faut l'utiliser conformément à Dieu, à la loi de Dieu, aux maximes de l'Évangile, sinon nous l'utilisons mal. Nous demandons, mais nous n'obtenons pas. Pourquoi ? Parce que nous demandons mal, dit saint Jacques, afin de satisfaire nos convoitises, notre concupiscence. Il nous faut donc vivre par la grâce dans un esprit d'obéissance, de renoncement et de gratitude. C'est les seuls moyens de ne pas vivre comme le vieil homme et de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Dans l'Épître, saint Paul nous dit « Ayez, mes frères, soyez animés des mêmes sentiments que le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition divine, il n'a pas cru devoir se réclamer de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti jusqu'à prendre la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et ayant tout l'extérieur d'un homme. Il s'est humilié lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. » Nous aimons bien la fin de cette épître, nous n'aimons pas trop le début. Nous aimerions triompher avec le Christ, si possible ici-bas, mais nous ne voulons pas souffrir avec lui. Or, nul ne triomphe s'il ne souffre avec le Christ. Évidemment, souffrir en dehors du Christ, malheureusement, ça ne sert à rien. Mais souffrir avec le Christ, alors c'est la voie du triomphe. Non pas du triomphe de la chair, du vieil homme, mais le triomphe de l'homme nouveau, de l'homme intérieur, le triomphe du Christ même. Si vous voulez être puissant pour le Christ, mes très chers frères, si vous voulez que votre piété, que votre vie tout entière soit autre chose que le déploiement d'une immense impuissance et stérilité, alors mourrez avec le Christ et ressuscitez en lui. Comment, direz-vous, comment ? L'anéantissement, mes très chers frères, ne se fait pas en publiant un article sur l'Internet comme quoi je suis très anéanti et je suis très mortifié. Non, mes très chers frères, vous le savez très bien. L'anéantissement qui est requis de nous se fait par l'observation du devoir et par le sacrifice de sa vie pour les siens. Je rectifie, pour l'amour de Dieu. Eh bien, je précise, pour l'amour de Dieu. Bien des gens, aujourd'hui, vont en prison pour une cause, vont en procès pour la cause, que sais-je. Et puis, ce n'est pas la cause de Dieu du tout. C'est-à-dire, moi, ma cause est beaucoup plus proche de celle de Dieu. C'est la cause de ceci ou de cela, tel et tel. Est-elle vraiment la cause de Dieu? Ou est-elle une cause pour laquelle combat un chrétien qui, par ailleurs, pense à Dieu? Vous allez dire, mais alors ce compte-là, alors on ne pense qu'à bâtir des églises, on ne pense qu'à aller à la messe, mes très chers frères. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de fond, un fond malicieux qui se révèle dans cette façon de s'exprimer? Ou bien on sert la cause, évidemment pour Dieu, mais il n'a pas intérêt à mettre son nez dans nos affaires, ou bien alors, évidemment, c'est le cléricalisme, c'est la piété, c'est le piétisme, on passe son temps à l'église. Quelle parole lamentable pour un chrétien, mes très chers frères. Je sais que vous ne vous le dites pas, évidemment, mais ça pourrait être une tentation, surtout à notre époque. Alors, comment faire? Il faut comprendre que tant que l'on veut faire quelque chose par ses propres forces, on en est incapable. Tant que l'on veut faire quelque chose par ses propres forces que l'on déguise avec des lambeaux de religion, on n'en est pas capable. Quand on veut faire quelque chose pour la gloire de Dieu, alors que c'est la gloire propre de soi-même, ou au moins d'une certaine manière de sa tribu, comme on dit, on est capable de rien. Vous allez dire, mais comment est-on capable de quelque chose? Déjà, en étant dans l'Église et dans l'ordre. Et c'est possible. Nous vivons une crise terrible, mais c'est possible. Déjà. Ensuite, en pratiquant, pour l'amour de Dieu, et d'une façon parfaite, avec l'aide de Dieu, toutes les choses qui relèvent de notre devoir. De telle sorte que si nous utilisons notre devoir, qui est la seule chose qui nous a été donnée pour nous sanctifier, de la bonne façon, nous serons véritablement anéantis quant à l'orgueil et vivifiés quant à l'esprit. Craignons le vieil homme, mes très chers frères, qui sans cesse se dérobe à la croix. Tout orgueil consiste dans la préférence de soi-même. Quand bien même que ça serait un soi-même un peu sublimé qui ne serait pas mon petit moi à moi, mais le moi dans les autres. Vous voyez, mes très chers frères, le refus de la mort dans le Christ, c'est la perpétuation de la mort spirituelle. Ne nous disons pas, ne vous dites pas, ne disons jamais, oui, mais si je m'anéantis dans le Christ, alors je ne serai plus capable de servir, que sais-je, ma patrie, ma famille. C'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Et on nous cite plus que jamais des grands moines, des grands religieux comme Saint Jean de Capistran par exemple, Saint Bernardin de Sienne, enfin surtout Saint Jean de Capistran, qui s'élançait le crucifix à la main au devant des troupes autrichiennes contre les Turcs lors de l'une des dernières invasions des Turcs menant ce rassemblement fait de gens qui étaient tous sauf des guerriers, il a réussi à chasser les au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dont il brandissait l'étendard et la croix, il a réussi à chasser les Turcs. Alors on dit, donc il faut brandir la croix, etc. Non. Il faut être saint comme Saint Jean de Capistran. Il faut être soumis aux religieux, si j'ose dire, comme ceux qui ont combattu sous sa houlette. Vous voyez, mes très chers frères, on n'y pense pas. Tous ces gens qui veulent imiter Sainte Jeanne d'Arc sans aucune mission, tous ces gens qui veulent combattre la bataille de Lépante sans s'assurer des arrières. Mes très chers frères, il n'y a qu'un seul moyen d'être fort, d'être puissant, ici-bas, pour l'avènement du règne de Dieu qui doit continuer à exister jusqu'à la fin des temps, c'est de s'anéantir dans la croix du Christ, de faire son devoir pour l'amour de Dieu, d'être dans l'ordre, et c'est ainsi, comme je disais la dernière fois, éprouver cette solution, éprouver ce que je suis en train de vous dire, et qui n'est autre que la doctrine de nos pères, la doctrine de nos pères depuis les apôtres jusqu'à l'aube de l'époque moderne. Éprouvez faites-en l'expérience, si j'ose dire, enfin dans le bon sens du terme, et vous verrez si Dieu n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous bénir. En revanche, continuez à faire ce que vous faites actuellement et vous verrez que vous n'arriverez jamais à rien et qu'au bout d'un certain nombre d'années, vous serez fatigué, vous serez cynique et vous verrez avec un œil morne et lassé, vous verrez une nouvelle génération de militants recommencer exactement les mêmes choses que vous avez faites avec la même arrogance et la même confiance et se préparer elle-même à un échec. Arrêtons de rouler dans les mêmes ornières, mes très chers frères, et pratiquons ce que nos pères ont toujours pratiqué. Faisons ce que nous devons faire aujourd'hui, et nous verrons si Dieu ne nous donnera pas tout ce dont nous avons besoin pour nous, nos enfants, etc., demain. Et peut-être même aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, dit notre Seigneur, dit l'Épître. Dieu l'a exalté parce qu'il s'est humilié, et s'il y avait un homme qui était capable de s'enorgueillir à juste titre ici-bas, c'était bien le Christ. Il ne l'a pas fait, et Dieu l'a exalté en lui donnant ce nom qui est au-dessus de tout nom, qui est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nos œuvres ne portent du fruit que dans la mesure où nous mourons à nous-mêmes et que nous vivons pour Dieu. De telle sorte que si nous faisons tout pour son amour, si nous rapportons tout à lui, véritablement et dans l'ordre, et pas simplement d'une façon idéaliste ou utopiste, alors véritablement nous mortifierons de fait l'orgueil qui est le nôtre, et il se trouve que ce sera la preuve que nous travaillons vraiment pour Dieu, mais à ce moment-là nous n'en aurons pas conscience. Pourquoi ? Parce que nous serons occupés à toujours nous conformer de plus en plus au Christ, pour l'amour du Christ, pour l'amour de Dieu, et Dieu nous utilisera. Celui qui veut être utilisé par Dieu ne le sera jamais. Celui qui fait ce que Dieu commande sera, si Dieu le veut, utilisé par lui. Alors vous allez dire, donnez-nous quelques indications pratiques pour nous rapprocher de la croix, de cette sainte croix que nous aimons, de cette croix dans laquelle est notre salut. Eh bien, mes très chers frères, n'oubliez jamais que la contemplation de la croix n'est autre que l'usage de ce fameux miroir dont parle Saint Jacques, miroir qui nous montre notre vrai visage. La plupart du temps, il est hideux, et plus il devient beau, plus nous savons que c'est le visage du Christ dans ce miroir. Voilà, je vous donne quatre petits conseils très faciles que nous donnent les auteurs pour mettre à profit la croix de notre Seigneur et la contemplation, la méditation de la passion de notre Seigneur. Premièrement, méditez les souffrances du Christ. si j'ose dire, méditer les souffrances du Christ sans en parler comme c'est... comme ces créatures généreuses qui, avant leur salut, un peu comme Clovis, vous savez, qui disait « Ah, si j'avais été là, en entendant le récit de la Passion, si j'avais été là avec mes hommes, on aurait sauvé le Christ. » Oui, mais il n'y aurait pas eu de salut non plus. Alors, méditons la croix, non pas, méditons la Passion du Christ, non pas pour dire « C'était une erreur judiciaire faite par un faux tribunal. » Mais bien sûr, c'est évident, et heureusement qu'il a fait cette erreur judiciaire, mes très chers frères, sinon nous ne serions pas là. Sinon, nous ne serions pas là. Méditons les souffrances du Christ comme nos pères les méditaient. Ne les méditons pas grâce à des médecins qui nous expliquent des histoires de pleurésie et d'autres choses comme ça, qui sont très intéressantes, mais qui n'ont rien à voir avec la piété, et qui sont peut-être même fausses. Ne les méditons pas grâce à toutes sortes d'avocats qui vous expliquent qu'en réalité, Sainte Jeanne d'Arc, le Christ et Louis XVI ont tous été les grandes victimes de l'histoire. Pardon, la grande victime de l'histoire, le Dieu sauveur. Mes très chers frères, méditons les souffrances du Christ, et vous allez comprendre un peu mieux ce que ça signifie. Méditons les souffrances du Christ avec les anciens monuments de la piété, avec les anciens livres, non pas avec les nouveaux livres qui racontent n'importe quoi. Méditons les souffrances du Christ comme on les a méditées depuis Sainte Marie-Madeleine jusqu'au 19e siècle, mes très chers frères. Méditons les souffrances du Christ comme les chrétiens les ont toujours méditées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est remercions le Christ de ce qu'il a voulu mourir pour nous. On n'y pense pas forcément, parce que quand on médite mal les souffrances du Christ, on dit « Ah, voilà, un tel peuple, tel personnage, on fait souffrir le Christ, ils sont dignes de mort, il faudrait les persécuter, il faudrait les etc. C'est ça. » Oh là là, attention, attention. Ce n'est pas ça qu'il faut dire, mes très chers frères. Pourquoi? Vous allez dire « Vous cédez au politiquement correct ». Pas du tout. Je cède à la religion, mes très chers frères, et je ne m'en écarte surtout pas. Il faut remercier le Christ de ce qu'il a voulu mourir pour nous, de telle sorte que nous puissions bénéficier de tout ce qu'il a fait pour nous. Vous voyez, que lorsque nous méditons la Passion et que nous entendons notre Seigneur dire « Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », que nous n'ayons pas au fond de notre esprit une petite voix qui dit « Ah, c'est un propos libéral ». Ah, attention, mes très chers frères, il parlait de nous, il parlait de moi, il parlait de vous. Nous ne savions pas ce que nous faisions en crucifiant le Christ dans la personne de ses bourreaux. Eh bien, remercions-le de ce qu'il a voulu mourir pour nous, de ce qu'il a donné sa vie volontairement pour nous. Personne ne lui a pris sa vie, il l'a donnée. Combien de fois a-t-on voulu lui prendre la vie, et ce n'était pas son heure, et il ne l'a pas donnée. Et au moment où il a voulu la donner, il l'a donnée. Remercions-le, c'est le deuxième point, remercions-le de ce qu'il a voulu mourir, souffrir et mourir pour nous. Troisième point, troisième conseil, aimons ce Dieu qui est mort pour nous de tout notre cœur. Et aimer Dieu de tout son cœur, c'est pas vouloir lui vouloir du bien et ensuite en s'attendant qu'il nous renvoie l'ascenseur. L'aimer de tout notre cœur, c'est se considérer son esclave et lui notre maître. Vous voyez, il y a des chrétiens qui disent, oui, il n'y a que dans l'islam qu'on considère l'homme comme esclave de Dieu. Ah bon, vous n'avez jamais lu en grec le début des épîtres, alors Paul, esclave de Jésus-Christ. Nous sommes les esclaves de Dieu parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu parce qu'il nous a acquis, les enfants du Christ, parce qu'il nous a acquis au prix de son sang. Il nous a achetés comme on achète des esclaves, mes très chers frères. Et ces esclaves, il en a fait les enfants de son père, les fils adoptifs, il en a fait les membres de son corps, il en a fait lui-même, puisqu'il nous nourrit de nous-mêmes. Il nous nourrit de lui-même par l'Eucharistie. Aimons-le de tout notre cœur comme étant vraiment plus nous-mêmes que nous ne sommes nous-mêmes, mes très chers frères. Et le quatrième point, qui rejoint le deuxième, eh bien, c'est expions par la pénitence les péchés qui l'ont fait mourir. Ne passons pas notre temps à nous extasier de la méchanceté de ceux qui l'ont fait mourir. Considérons que cette méchanceté est la nôtre. Et que chaque fois que nous faisons quelque chose de bien, en dehors de l'ordre, nous contribuons à donner un soufflet au Christ. Nous lui voilons la face, nous lui donnons un soufflet et nous lui disons « Prophétise, Christ, dis-nous qui t'a frappé ». Vous allez dire « Mais je n'ai jamais conscience de faire ça ». Non, mais... En fait, vous faites quelque chose par rapport à lui et vous lui demandez d'avoir une attitude par rapport à vous et une attitude qui relève de lui, la prophétie. Vous voyez, je me lance dans la militance et puis je dis « Montrez Seigneur que vous êtes avec moi ». Je l'ai frappé au visage, je lui ai arraché sa barbe, je l'ai voilé et je lui ai mis sur la tête une couronne d'épines et je l'ai violemment frappé avec un roseau, avec lequel, par ailleurs, je l'avais mis dans sa main pour faire semblant qu'il était roi, alors qu'il est roi. Expions, mes très chers frères, par la pénitence, les péchés qui l'ont fait mourir. Méditons les souffrances du Christ, remercions-le d'avoir voulu mourir pour nous, aimons-le comme notre vrai moi, expions par la pénitence les péchés qui l'ont fait mourir. Chaque fois que je rencontre quelque chose qui me fait souffrir, chaque fois que je rencontre une vexation, chaque fois que je rencontre un contretemps, chaque fois que je rencontre quelque chose d'une manière ou d'une autre, moralement, spirituellement ou autre, sachons l'utiliser en pénitence pour l'expiation des péchés qui ont fait mourir le Christ. Par le signe de la croix, il nous sauvera. Par le signe de la croix, c'est l'antienne de communion, Seigneur notre Dieu, délivrez-nous de nos ennemis. Alléluia. Le signe de la croix, nous terminons par ces considérations, le signe de la croix est un signe qui est à la fois extérieur et intérieur. Il faut le faire extérieurement, non pas comme une provocation, parce que le chrétien est sage, comme prudent comme un simple comme une colombe, mais prudent comme un serpent, justement. Il ne faut pas le faire comme une provocation, mais il faut le faire. Attention au respect humain. Mais si on le fait extérieurement, il faut le faire aussi intérieurement. Et intérieurement, qu'est-ce que c'est ? Extérieurement, nous munissons du signe de la croix comme d'un bouclier. Nous revêtons notre armure. Mais intérieurement, nous utilisons l'épée du Christ, l'épée du Verbe, pour la mise à mort du vieil homme, à chaque signe de croix. Est-ce que vous en pensez quand vous faites le signe de croix pour entrer dans l'église, lorsque vous faites le signe de croix avant de lire l'Écriture sainte, lorsque vous faites le signe de croix avant de manger, lorsque vous faites le signe de croix en toutes sortes, dans toutes les occasions où le chrétien fait le signe de croix, est-ce que vous pensez que vous vous mettez à mort ? Vous voyez, c'est un petit peu, si j'ose prendre un exemple qui est un petit peu légèrement décalé, mais enfin qui est peut-être, ça nous permettra de le fixer dans notre esprit, c'est un petit peu comme si on mettait sur nous, on braquait le viseur d'une lunette pour le tir. Au milieu de cette lunette, il y a une croix, et on sait très bien que la balle doit aller au centre de la croix. Et à chaque fois que nous faisons le signe de croix, nous mettons en quelque sorte le viseur, le collimateur, sur notre vieil homme, afin que le Christ, la puissance de la résurrection du Christ, le frappe à mort. Ah, j'en vois qui du coup se disent, oh, je vais peut-être le faire moins souvent. Faisons-le encore plus souvent, mes très chers frères. Faisons-le encore plus souvent, parce que chaque fois que nous frappons à mort notre vieil homme, nous vivifions l'homme intérieur, l'homme nouveau. Regardons au serpent en croix, mes très chers frères. Regardons-le, c'est lui. Chaque fois que nous faisons le signe de croix sur nous, nous confessons notre faiblesse. Parce que si nous étions assez forts pour résister au monde, à la chair et au diable, eh bien, nous n'aurions pas besoin de faire le signe de croix. Chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous confessons notre faiblesse. Et chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous sommes forts de la force même de la croix, qui est ce bois adorable qui vient du paradis et qui a porté ce fruit si doux pour la rédemption du monde, mes très chers frères. Regardons à ce serpent en croix, c'est lui qui peut nous sauver, qui peut nous sauver de nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait que nous avons besoin de regarder le serpent en croix, notre Seigneur Jésus-Christ ? C'est parce que nous avons péché contre Dieu, nous avons murmuré avec nos pères dans le désert, nous avons grogné de ce qu'en Égypte il y avait des oignons, des concombres, etc. Alors que dans le désert il n'y a que de la manne qui nous dégoûte. Mes très chers frères, combien de fois avons-nous mérité le châtiment des serpents brûlants qui viennent nous mordre et nous torturer ? Regardons au Christ, notre Sauveur, regardons vers lui. Chaque fois que nous faisons le signe de la croix, c'est que nous le regardons, puisque nous le voyons par les yeux de la foi, et chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous confessons que nous avons péché contre Dieu. Et donc, chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous protestons à Dieu de notre amour et de notre désir de faire pénitence. Il n'y a de salut que dans le Christ, notre Dieu. Dans l'Évangile, il est dit, que nous avons lu tout à l'heure, il est dit que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que quiconque ne croit pas dans le Christ périra et n'aura jamais la vie éternelle. Alors mes très chers frères, nous qui avons la foi par la grâce de Dieu, c'est le premier don que Dieu nous a donné, eh bien, nous qui avons la foi par la grâce de Dieu, ne soyons pas des insensés. Ne suivons pas notre volonté propre, alors même que nous avons déjà les premiers rudiments du christianisme. Faire le signe de la croix, tourner ses regards vers le Christ, c'est avoir la vie éternelle, c'est être consommé dans le Christ, c'est recevoir la puissance même du Christ. Il n'y a aucune raison de se réjouir, mes très chers frères, lors de la fête de l'invention de la Sainte Croix ou la fête de l'exaltation, qui est un peu plus tard dans l'année. il n'y a aucune raison de se réjouir quand la croix n'est pas intelligée, n'est pas comprise pour ce qu'elle est. Nous nous réjouissons de la croix, vous faites bien, mais les démons voient la croix et ils tremblent, et les mauvais chrétiens font le signe de croix et vivent en apostat. Dans l'offertoire, il est dit « La droite du Seigneur a fait éclater sa puissance, la droite du Seigneur m'a exalté, je ne mourrai point, au contraire je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. » Alléluia. C'est le chant de reconnaissance du crucifié dans le Christ. Renoncer à soi-même, c'est devenir fort par la grâce même du Sauveur. La droite du Seigneur a fait éclater sa puissance, la droite du Seigneur m'a exalté, cette droite crucifiée dans laquelle je suis incorporé par le baptême, je ne mourrai point dans mes péchés parce que je regarde au serpent en croix et je suis sauvé, et je raconterai les œuvres du Seigneur, je témoignerai par ma vie, par l'exaltation de Dieu et la glorification de Dieu, par la mise en pratique de mon devoir d'État, je raconterai les œuvres du Seigneur à mes enfants, à mes petits-enfants et à toutes les générations jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et à sa croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.